Bienvenue dans cette deuxième partie sur les copersonnalités. Nous allons commencer par définir ce qu'est le système primaire. Nous appelons partie primaire les énergies qui dominent dans la personnalité d'une personne, celles qui forment l'ego fonctionnel ou encore l'ego opérationnel. Ce sont celles qui sont en charge ou encore qui conduisent la voiture. Les parties primaires sont venues en réponse à des stimuli que nous ignorons, à des moments clés de notre vie, et elles nous ont sorti d'affaires. Elles font partie de notre base, de notre conditionnement et de notre sécurité première. Leur savoir est valable. À moins d'être destructives, elles ne doivent pas être déstabilisées. Notre premier travail est de devenir conscient d'elles et de leurs valeurs. Assez souvent, mais pas toujours, elles se sont mises en place très tôt dans notre vie pour nous permettre de survivre, de nous adapter, de faire au mieux avec notre environnement. En dépit de leur importance et de leur rôle déterminant dans nos vies, elles n'en restent pas moins des parties dont nous sommes peu conscients. Elles sont souvent trop proches de nous pour être vues comme des entités séparées de nous. Dans notre processus de développement, nous sommes récompensés pour certains comportements et punis pour d'autres. Ainsi, certaines copersonnalités se trouvent renforcées et d'autres affaiblies. Nous apprenons nos leçons et développons les copersonnalités qui conviennent. Nous avons tous été élevés dans des cultures et des familles où nous sommes entraînés à penser, sentir, ressentir et voir d'une manière spécifique et prédéterminée. Comme ces perceptions apprises sont les seules que nous connaissons, nous supposons tout naturellement que la réalité du monde autour de nous est celle que notre système primaire perçoit et que les copersonnalités que nous valorisons sont les seules valables. Prenons l'exemple d'un homme ayant vécu dans une famille qui valorise le mental. Si cet homme considère son mental comme sa principale source d'information sur le monde, il ne sait rien de son autre nature. Il ne sait rien de son imagination, de ses intuitions et perceptions profondes, de son lien avec l'invisible, de la réalité et de la validité de ses sentiments. Il n'a pas accès aux informations venues de ses autres sources. Il peut même dénier les richesses et le plaisir que cette autre nature pourrait lui amener. C'est cette autre nature, ces parties perdues de nous-mêmes, que le Voice Dialogue cherche à restaurer. Nous pouvons découvrir la richesse de nos copersonnalités inexplorées une fois devenus conscients de notre système primaire et séparés de lui. Chacun de nous peut devenir très identifié à l'une ou l'autre de ses parties primaires. Plusieurs exemples. Une personne qui, pour avoir une bonne image d'elle-même, dépend du gentil, peut finir par s'épuiser en s'efforçant de plaire aux autres. Vivre en essayant de répondre aux attentes des autres peut l'éloigner de ses propres talents et attentes profondes. C'est bien souvent une cause de dépression. Si quelqu'un a un actif très développé, cela peut le conduire à être toujours à la recherche de toujours plus, toujours plus. Ses collaborateurs vont se plaindre qu'il leur en demande trop, sa famille peut lui reprocher son manque de présence et éventuellement une maladie cardiaque peut le guetter. Si une autre personne donne trop d'importance à son critique et s'identifie à ce critique, elle peut développer un jugement si pointu que personne, pas même elle, ne pourra satisfaire ses exigences. Pour se rendre compte à quel point cela peut tuer la créativité, il suffit de voir comment une seule remarque critique peut paralyser une séance de brainstorming. Si quelqu'un permet à celui qui sait, disons à son expert, que ce soit un expert psy ou autre, de gouverner, il risque de devenir un raseur pédant et prévisible, sans humour ni fantaisie, avec pratiquement aucune capacité de se détendre, de jouer ou d'utiliser son intuition. Celui qui est toujours sous l'influence de son guerrier voit des ennemis partout. Il attaque d'abord et pose des questions ensuite. Il crée lui-même les dangers qu'il souhaite éviter. Maîtriser, dominer, développer son pouvoir, quel qu'il soit, est nécessaire. Cependant, un système primaire non équilibré nous prive de certaines de nos possibilités. Lorsque nous le laissons prendre le pouvoir, il va nous mettre en sécurité selon sa perspective. C'est-à-dire qu'au nom de souffrances possibles, il va conduire notre vie de façon à toujours éviter d'éveiller les anciennes blessures, qu'elles soient connues ou inconnues. Nous nous privons alors d'une vie beaucoup plus complète, ou encore nous nous privons des formes de vulnérabilité qui sont très agréables, celles qui permettent l'intimité avec l'autre ou l'ouverture au monde invisible. Nos copersonnalités primaires sont nos positions de pouvoir. Bien que souvent mal vues, le pouvoir est en fait une place naturelle et nous l'occupons sans cesse. Mais comme ce mot « pouvoir » a pour beaucoup une connotation négative, nous occupons cette position sans la reconnaître. Très souvent, nos parties primaires elles-mêmes ont horreur du pouvoir. Pourtant, il est nécessaire de comprendre quelles sont nos positions de pouvoir. Les parties primaires ont toujours à voir avec le contrôle et le pouvoir, même si ce sont des énergies spirituelles ou à première vue faibles, comme des énergies de séduction ou de victime. Si nous renions notre pouvoir, paradoxalement, cette place de victime va devenir notre place de pouvoir, tant il est vrai que nous ne pouvons pas vivre sans avoir, d'une manière ou d'une autre, un certain pouvoir. Parfois, de grands archétypes, le rationnel, l'expert, le sauveur, Zorro, le syndicaliste, la mère, le chercheur spirituel ou tout autre archétype spirituel viennent aider un enfant à faire face à certaines difficultés. Cet archétype peut prendre une place de plus en plus importante dans la personnalité de l'enfant et finir par vivre la vie à la place de la personne. C'est aussi une position de pouvoir qui protège d'une certaine vulnérabilité. Et il devient l'ego fonctionnel, l'ego opérationnel. Alors, comme pour toute autre identification à une partie primaire plus ordinaire, il existe un choix. Statu quo, ou négociations et réformes, ou encore coup d'État. La vulnérabilité est la clé du système primaire. Et la vulnérabilité est aussi cachée sous le système primaire. Elle est à la fois protégée et étouffée par la copersonnalité primaire qui s'est développée. Faire passer cette vulnérabilité dans notre angle de vision nous permet de prendre soin directement d'elle et ainsi d'être libre de naviguer entre nos primaires et leurs opposés. C'est comme si cette racine qu'est la vulnérabilité, une fois qu'elle est vue, permet de sortir de cette primaire. Le déplacement de la vulnérabilité permet ainsi l'actualisation de la personnalité. L'une des premières copersonnalités à se développer est l'observateur-protecteur-contrôleur. L'observateur-protecteur-contrôleur est notre gérant. Il ressemble à un garde du corps qui surveillerait constamment notre environnement, cherchant quel danger pourrait s'y cacher et déterminant la meilleure façon de nous protéger. Il surveille notre environnement, mais il nous surveille nous aussi très soigneusement. Il a à sa disposition les injonctions parentales, celles de la société avec lesquelles il contrôle notre comportement et principalement en établissant des règles qui, à son avis, assureront notre protection et nous permettront d'être acceptés par les autres. Il décide dans quelle mesure nous pouvons nous laisser aller à nos émotions et jusqu'à quel point. Il veille à ce que nous n'agissions pas d'une manière déraisonnable et ne fassions rien qui pourrait mettre dans l'embarras, qui pourrait le mettre dans l'embarras, en fait. Ce schéma d'énergie a de nombreux coéquipiers. Il peut, entre autres, utiliser les énergies du rationnel, du responsable, de l'actif, du perfectionniste, du gentil, du spirituel, pour maintenir le contrôle sur notre environnement. Lorsque la plupart des gens utilisent le mot « je », ils font référence très souvent à cet observateur, protecteur, contrôleur. Pour la grande majorité d'entre nous, cette énergie est celle qui dirige notre personnalité et elle est ce que beaucoup conçoivent comme l'ego. Puis, un grand nombre d'autres copersonnalités vont continuer à amener leur savoir-faire ou leur savoir-être et enrichir ou contrôler et appauvrir notre personnalité. Différents schémas d'énergie contribuent ainsi à assurer le plus ou moins grand succès de notre séjour sur Terre. Tous, cependant, font du mieux qu'ils peuvent. Tandis que ce système primaire se développe, un système renié, lui aussi, se met en place. Et de très belles énergies peuvent se trouver au sein de ce système. Simplement, le système primaire les considère comme dangereuses. Dans ce double mouvement de construction de notre personnalité, nous pouvons perdre le contact avec notre empreinte psychique. C'est là une triste étape car toutes nos relations en sont affectées. Lorsque nous perdons le contact avec cette empreinte psychique unique, ce n'est plus notre personnalité la plus profonde, la plus vulnérable qui est impliquée dans notre relation à l'autre. À sa place se tient un groupe de copersonnalités surveillé par l'observateur protecteur contrôleur qui détermine nos sentiments et nos comportements. Nous éprouvons alors toujours la crainte diffuse que l'autre nous abandonne s'il savait vraiment qui nous sommes. Même si nous ne savons pas vraiment nous-mêmes, en fait, qui est cette mystérieuse réelle personne. Regardons ce double mouvement entre un système primaire qui prend de plus en plus de place et un système renié qui n'a plus que la part congrue. Regardons le gentil. Lorsque le gentil se développe, car c'était le meilleur parti à prendre dans notre famille, être aimable, souriant et serviable, il va étouffer autant que faire se peut l'agressif, l'impulsif, voire le spontané. Ces copersonnalités qui sont naturelles vont être désavoués, tassés au fond du coffre de notre voiture psychologique avec interdiction d'en sortir. Non seulement nous n'avons plus leur talent à notre disposition, mais elles vont faire des coups d'État, vite réprimés et de plus en plus malvenus. Lorsque nous développons à outrance notre actif et notre rationnel, nous enterrons notre capacité à sentir, percevoir, rêver, notre capacité à penser de manière non linéaire, celle d'imaginer et d'attribuer de la valeur à cet imaginaire, ou encore celle d'avoir l'esprit et le corps vacants. Nous perdons aussi la capacité d'être dans notre corps uniquement présent au moment présent. Nous développons l'attention à l'autre et nous renions notre égoïsme, notre capacité à prendre soin de nous, à nous donner de l'attention, voire parfois à nous aimer et nous valoriser. Nous développons notre pacifiste et nous renions le combattant nécessaire pour vivre dans notre monde tel qu'il est. Ce qui est en jeu, c'est le fait de ramener un certain équilibre dans notre vie. L'image d'une voiture psychologique conduite par différentes copersonnalités, chacune prenant le volant à tour de rôle, peut sembler étrange. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe. D'ordinaire, nous avons été si bien conditionnés qu'à l'âge adulte, et généralement même bien avant, nous avons perdu toute connexion avec notre être véritable. Comme nous l'avons laissé entendre, nous ne savons plus qui nous sommes ni ce que nous ressentons. Nos instincts ont été enterrés, et nous ne faisons que les entrevoir brièvement à certains moments. Nos tigres, nos lions ne peuvent émerger que lorsque le contrôle du protecteur commence à se dissoudre dans l'alcool ou la drogue. Nous pouvons piquer des crises de colère très régulièrement, mais sans savoir pourquoi. Et il est facile d'oublier ces brusques accès de colère et de penser que ce n'était pas vraiment nous, juste un moment d'énervement sans gravité. Il s'agit de se libérer de ce conditionnement, de ce système primaire, tout en gardant ce qu'il nous amène de positif et d'acquérir les qualités qui lui sont opposées. Nous aurons alors non une, mais deux manières de protéger notre vulnérabilité. Nous allons maintenant regarder les énergies reniées. Chaque partie primaire qui se développe repousse avec force l'énergie qui lui est opposée et la juge constamment, ouvertement ou non. Nous nous retrouvons adultes avec un système primaire que nous défendons et honorons et un système renié qui végète, ronge son frein dans l'ombre, se déforme et fait des coups d'état à notre insu. Cette énergie opposée est égale en taille et en poids à la primaire. Ce qui veut dire que plus nous avons développé une partie primaire, plus son opposé renié est également développé. Bien sûr, cette partie reniée va chercher à s'échapper de la cage dans laquelle la partie primaire la maintient. Et nous avons besoin des talents de cette partie reniée. Ce système est constitué d'énergies qui savent qu'elles ont aussi leur rôle à jouer dans notre vie et qui veulent le faire. Lorsqu'on prend le temps d'entendre leur colère ou leur frustration, leur rage parfois, et de les sortir progressivement de leur prison pour les remettre sur pied, elles peuvent venir équilibrer avec efficacité notre système primaire. Ces forces qui ne peuvent pas participer à notre personnalité de façon consciente vont inlassablement frapper à la porte et se manifester. Elles vont venir dans nos rêves, nos fantasmes ou être incarnées par notre voisin, notre conjoint, notre chien, bref, par tous ceux que nous jugeons. Ce que nous détestons et jugeons est une énergie reniée. Les individus et les objets que nous rejetons, haïssons, jugeons sont des représentations directes de nos copersonnalités reniées. En conséquence, chaque personne que nous jugeons, détestons ou rejetons est un professeur potentiel pour peu que nous sachions prendre du recul et voir comment notre réaction prend racine dans une blessure protégée par une partie primaire qui est là en train de juger. Maintenant, soyons précis. Ce qui nous manque n'est pas l'archétype déformé que nous voyons et que nous jugeons, mais sa qualité première. Les parties reniées que nous jugeons sont nos pouvoirs discrédités qui, parce qu'ils ont été repoussés et déconsidérés, se sont déformés. Ces copersonnalités reniées vont devoir retrouver leurs couleurs et leurs formes originales avant de pouvoir être intégrées dans notre personnalité. Toute énergie reniée se déforme et perd sa couleur et sa forme naturelle. Ne pouvant participer directement à notre vie, dénigrée, elle se crispe, s'hypertrophie, s'acidifie, se vrille, et lorsqu'elle surgit à notre insu dans notre vie, c'est sous sa forme la moins recevable. Cela ne nous aide pas à nous réconcilier avec elle. Lorsque nous remarquons une énergie qui nous semble détestable chez l'autre, il est bon de réaliser aussi que le plus souvent, nous voyons une copersonnalité reniée sous son aspect le moins engageant. Imaginez un chien mis en cage pendant 30 ou 40 ans. Lorsque nous commençons à accepter ces énergies, à voir leurs qualités, à leur redonner avec le discernement nécessaire un peu de place dans notre vie, elles vont reprendre progressivement leur forme et leur couleur de départ. Tant qu'elles n'ont pas repris une forme saine et normale, leur présence dans la personnalité doit être surveillée et leurs agissements maîtrisés. se servir de nos jugements pour découvrir les copersonnalités qui nous dominent et le jeu. Tout l'art est de reconnaître dans l'opposé inacceptable qui se présente à nous, au-delà du comportement qui nous déplaît, le cœur de cette énergie. Prenons l'arrogant. Damien vient me voir en supervision car il a du mal avec l'une de ses clientes qui, me dit-il, est d'une arrogance insupportable. Elle le remet constamment en question, doute de ses capacités, sait tout sur tout et ne veut pourtant pas accepter sa proposition de changer de thérapeute. Damien a-t-il renié l'arrogance ? Doit-il intégrer cette caractéristique ? Non. Quelle est la qualité au cœur de l'arrogance avec laquelle Damien doit se réconcilier pour continuer à pouvoir accompagner cette femme ? Regardons la partie primaire de Damien. La partie primaire de Damien recherche continuellement à être juste, à ne jamais se placer au-dessus des autres. L'humilité pour cette partie primaire est une qualité extrêmement importante. Ce que la vie propose à Damien, c'est de garder cette partie primaire qui aime l'humilité et d'embrasser davantage une énergie opposée qui pourrait être celle d'une personne en lui qui peut être fière de lui. Une énergie qui lui permettrait d'être davantage sûre de lui, qui pourrait être fière de son parcours, consciente de qui il est, de ses qualités. S'il garde l'humilité d'un côté et cette énergie de fierté de lui-même de l'autre, il n'est pas en danger de devenir orgueilleux ou arrogant. Mais il ne tombe pas non plus dans le piège de se dévaloriser. Et, cerise sur le gâteau, il lui sera beaucoup plus facile d'accepter l'arrogance chez les autres sans se sentir mal. Regardons maintenant l'énergie d'Harpagon. Harpagon est un archétype qui peut se décliner de différentes façons. Lorsque nous voyons un harpagon et le jugeons sévèrement, le travail n'est pas de donner une place à cet archétype dans notre personnalité. Le travail est de découvrir le généreux qui juge harpagon et de s'en séparer suffisamment pour se réconcilier avec l'argent et avec une énergie, disons, de comptable. Personne ne valorise l'avarice. Se décaler cependant de son généreux pour entrer en contact avec l'insécurité et les peurs de l'enfant et les prendre en compte est nécessaire. Et cela demande d'intégrer un comptable qui prendra soin de la vie matérielle, sécurisera l'enfant et sera source d'harmonie, même au sein d'un couple. De toute façon, le comptable est toujours présent quelque part dans une personnalité. Et il a parfaitement en mémoire tout ce que le généreux a donné. On le voit arriver lors des schémas d'ancrage négatifs. Le généreux est une belle énergie. Intégrer son comptable, cependant, est ce qui met réellement fin au jugement sur tous les avares de la terre. Prenons l'hypocrite. De nouveau, personne ne désire devenir hypocrite ou avoir un hypocrite dans sa personnalité. La qualité derrière l'hypocrisie, cependant, est le plus souvent le souci de ne pas blesser l'autre et de ne pas être blessé en retour. Les personnes identifiées au fait de dire systématiquement leur vérité et leur façon de voir ont renié à la fois l'attention à l'autre et leur propre vulnérabilité. Une personne identifiée au direct speaker, celui qui parle sans détour, direct speaker, pourra garder sa façon directe de parler, mais gagnera à être en contact avec le gentil. Le contact avec sa propre vulnérabilité, le souci de la vulnérabilité de l'autre seront alors pris en compte sans qu'il soit nécessaire de devenir hypocrite. Cela permettra simplement de dire ce que l'on a à dire avec gentillesse, ou d'avoir davantage de choix entre parler ou se taire. Et surtout, les jugements sur tous les hypocrites de la terre n'auront plus lieu d'être. Le voleur. Le voleur fait de nombreux coups d'État chez les patriarches les plus vertueux. De nouveau, il n'est pas nécessaire de devenir un voleur. Cependant, se décaler du patriarche permet de reconnaître les besoins de l'esprit libre, pour qui la propriété privée n'existe pas, ceux de l'enfant innocent, qui prend ce dont il a besoin, du rebelle, qui ne se soucie d'aucune loi, de l'égoïste, qui ne se soucie que de ce qu'il veut. Le voleur aura alors beaucoup moins de raisons de passer à l'acte dans une personnalité souple qui n'a pas renié les besoins de ses copersonnalités. Sous la pression de primaire rigide, le voleur peut faire quelques coups d'éclat à l'insu ou aux grandes dames de ces dernières. Une partie reniée fera toujours des coups d'État. La kleptomanie en est un bon exemple. De nombreux jugements viennent du patriarche et se décaler de celui-ci permet de mieux comprendre tous ceux qui n'appliquent pas à la lettre sa morale. Nul besoin pour cela de devenir voleur, menteur, tricheur, simplement d'avoir fait l'expérience de la vulnérabilité et d'accepter qu'il existe des façons différentes d'en prendre soin. Pour ne pas devenir une victime, nous avons besoin du patriarche et de l'équilibre amené par toutes les copersonnalités qui peuvent survivre et prendre soin d'eux dans des temps ou des lieux difficiles. Ainsi, il existe une multitude de copersonnalités. Nous n'allons pas vous en donner un catalogue, car une copersonnalité, comme nous l'avons déjà dit, peut se diviser en des dizaines d'autres. Et puis, tenter de mettre l'humain dans des cases fonctionne mal. Nous ne pouvons que nous laisser surprendre par le vivant et le constant mouvement de ce qui nous anime. Nous apprenons à reconnaître nos différentes énergies et cela nous guide pour les reconnaître sous différentes nuances chez les autres, lorsqu'ils se présentent dans une séance de voice dialogue. Nous ne nous servons pas de cette facilité à reconnaître un archétype ou une copersonnalité en dehors des séances, car ce n'est qu'en interrogeant une personne que l'on peut savoir ce qu'elle valorise et donc quel est son système primaire. Rappelons que ce que nous voyons en premier chez l'autre est souvent une partie reniée. Alors on peut cependant plus ou moins classer les copersonnalités en deux grandes familles, celle qui crée un lien énergétique et celle qui n'en crée pas, ou pour qui ce n'est pas très prioritaire. Dans la première famille, nous trouvons des énergies qui ont à voir avec le cœur et la vulnérabilité. Citons les parents aimants, la mère généreuse, le père responsable, le gentil, le généreux lui-même, l'altruiste, ceux qui aiment prendre soin des autres, les multiples enfants intérieurs, Aphrodite, qu'elle soit personnelle ou impersonnelle, les différents patriarches, car ils sont souvent très émotionnels, l'enseignant, quand il est plus ou moins juste, le sauveur, certains guerriers au grand cœur, l'artiste, les énergies liées à la sensibilité et aux énergies sensuelles. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas citées. Dans la seconde famille, nous trouvons les énergies qui ne font pas ou font beaucoup moins de liens avec l'autre, car ce lien n'est pas leur priorité. Ce sont les énergies qui s'occupent de nos buts, de la réussite, du traitement de l'information, de l'analyse, de l'ordre, de la structure, de l'établissement des normes, des comparaisons, de l'efficacité. Toutes les copersonnalités qui, de loin ou de près, ont à voir avec réussir dans le monde. Citons le mental lui-même, le cérébral ou l'intellectuel, le perfectionniste, l'ambitieux, l'actif, l'idéaliste, l'observateur, le critique sous ses multiples formes, le gérant, le contrôleur, l'expert, le guerrier froid, le sexuel. La victime fait partie de cette famille. En effet, en rage ou désespérée, la victime ne fait pas de réel lien avec l'autre ni avec son environnement. En conclusion, je vais parler d'une nouvelle conscience. La découverte de nos copersonnalités et de la façon dont elles opèrent en nous est un des moteurs premiers dans l'évolution de la conscience. Cet instant d'éveil à une nouvelle copersonnalité peut arriver à tout moment. Après avoir vu un film, lu un livre, il peut se produire lors d'une méditation, d'une séance de voice dialogue ou être le résultat d'un rêve ou d'une expérience de vie. Nos perceptions et nos sentiments sont alors intensifiés. Nous faisons l'expérience de pouvoir considérer le monde avec une nouvelle perspective. Il s'accompagne souvent d'une sensation de perte d'équilibre. L'ancien équilibre est remis en question. Sans cette compréhension, nous sommes dans une position d'impuissance. Nous les regardons conduire notre voiture psychologique tandis que nous sommes assis à l'arrière, ou pire, cachés dans le coffre. Découvrir nos copersonnalités et leur manière d'agir devient une question de la plus haute importance. Ce voyage de découverte, c'est l'évolution de la conscience. De cette évolution de conscience dépend le monde dans lequel nous vivons, car la conscience détermine la forme. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Véronique Brard, enseignante en Voice Dialogue. Au revoir.